Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler des hernies abdominales, ces grosseurs sous-cutanées qui vont porter un nom différent en fonction de leur localisation, sous le sternum, au niveau de l'ombilic, de l'aine ou du haut de la cuisse. La membrane qui entoure les viscères se laisse distendre alors de manière anormale à la faveur d'une faiblesse de la paroi musculaire et forme une grosseur qui gagne en taille avec le temps et lors d'effets de poussée abdominale. Les hernies sont parfois présentes dès l'enfance ou développées à l'occasion d'efforts de la vie courante. Ces hernies de la paroi de l'abdomen se traitent par chirurgie. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons donc voir à quel moment cette option chirurgicale devient nécessaire et dans certains cas même relève de l'urgence. La technique chirurgicale a beaucoup évolué au cours des dernières années, l'anesthésie aussi, et nous aborderons également la question des suites opératoires. Et bien sûr, comme chaque jour, nous comptons sur votre participation. On attend vos messages, vos questions sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 84 22 75 75. Savoir sur ces hernies aujourd'hui dans Priorité Santé. Pour répondre à vos questions, on va retrouver le professeur Franck Zinzindoué. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de chirurgie viscérale et digestive à l'hôpital privé Drôme Ardèche et vous vous trouvez, professeur Zinzindoué, en duplex de Valence dans les locaux de France Bleu Drôme Ardèche que l'on remercie bien sûr pour leur accueil. Nous retrouverons également en ligne du Sénégal tout à l'heure le professeur Madiang Dieng, chef du service de chirurgie générale du CHU Aristide Le Dantec de Dakar, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop. Et en fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Franck Zinzindoué, des hernies donc au pluriel, associées à différentes parties du corps, à différents adjectifs. On parle de hernie ventrale dans certains cas, de hernie abdominale. Alors justement, quelles sont les plus fréquentes et quels sont les termes que vous retenez?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir des hernies sur toutes les faces du tronc, donc toutes les faces de la paroi du tronc. Quand elles sont antérieures, ventrales, abdominales, il peut aussi y en avoir sur les côtés, il peut y en avoir postérieures, il peut y en avoir en haut avec le thorax, ou il peut y en avoir en bas. Les plus fréquentes, indiscutablement, sont les hernies inguinales, ou dites inguino-crurales, en particulier au niveau inguinal, parce qu'il existe un orifice naturel de l'abdomen qui permet de laisser passer les éléments du cordon spermatique qui vont vers le testicule, et donc ces orifices peuvent être anormalement large et laisser passer des viscères intra-abdominaux.
Donc là, on est au niveau de l'aine et au niveau du haut de la cuisse.
C'est tout à fait cela.
Et on a aussi des hernies qui sont, on va dire, plus haut sur le corps. On parle par exemple de la hernie de la ligne blanche. De quoi s'agit-il?
Alors, les hernies de la ligne blanche sont un cas général dont le cas particulier est la hernie ombilicale. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'embryogenèse, il va y avoir la formation de la paroi antérieure de l'abdomen, qui va petit à petit se refermer au niveau de l'ombilic, mais je pense qu'on reviendra sur le cas particulier des hernies ombilicales. Et au-dessus, entre l'ombilic et le bas du thorax, ce qu'on appelle le sternum, il peut y avoir des petits orifices qui se forment, parce que de part et d'autre, il y a les muscles qui forment une barrière assez continente, et les aponévroses, donc les tissus qui rejoignent ces muscles au milieu, peuvent être criblés de petits trous.
Et là, ce sont les hernies épigastriques, est-ce que c'est ça?
Alors voilà, c'est ça, ce sont des hernies de la ligne blanche. L'épigastre, c'est la zone la plus haute sous le thorax, et elles peuvent comme ça survenir depuis l'épigastre jusqu'au niveau de l'ombilic.
On parle aussi de hernie hiatale, de quoi s'agit-il?
Les hernies hiatales sont des hernies qui se situent au niveau de l'orifice qui existe entre l'abdomen et le thorax pour laisser passer l'œsophage.
Alors tout à l'heure, vous avez cité, excusez-moi, ces hernies inguinales avec le canal testiculaire, c'est bien ça?
Voilà, avec les éléments du cordon spermatique, tout à fait.
Donc, on imagine qu'elle concerne directement les hommes, ces hernies inguinales, bien plus que les femmes.
Bien plus. Elles peuvent exister chez la femme, mais à ce moment-là, comme le bassin des femmes est plus large, eh bien, elles se situent plus bas, à la base de la cuisse, c'est ce que vous signaliez, c'est ce qu'on appelle les hernies crurales, qui, à ce moment-là, suivent les vaisseaux, et les vaisseaux iliofémoraux, et donc qui sont un petit peu en dessous.
Alors, professeur Zinzadoué, certaines de ces hernies sont présentes dès l'enfance, voire dès la naissance. On parle de hernie congénitale. Comment est-ce qu'on l'explique?
Alors, il y a différents types de hernie congénitale d'abord. Par exemple, il faut savoir que l'anneau ombilical, comme je le disais au cours de l'embryologie, l'ombilic va petit à petit se refermer. Eh bien, il faut savoir que chez ce qu'on appelle les sujets mélanodermes, et donc notamment en Afrique, l'anneau ombilical se referme beaucoup plus lentement, et donc ça peut aller jusqu'à la deuxième, troisième, quatrième année.
C'est pour ça chez qu'on voit ces petits-enfants avec leur petit ventre tout rond très mignon, mais avec parfois une grosseur au niveau du cordon ombilical, donc du nombril.
C'est tout à fait ça, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit tout un tas de petits-enfants avec un petit obus au milieu du ventre, et tous les adultes qui n'en ont pas. C'est parce que au fur et à mesure du temps, petit à petit, ça va régresser, ça va se refermer. Alors pas chez tous, mais chez la plupart.
Mais on peut donc rassurer les mamans qui au début peuvent trouver ça assez disgracieux, voire même peuvent être tentées de dire est-ce qu'il ne faut pas une intervention en disant il faut un petit peu laisser le temps au temps.
Alors oui, sauf que souvent dans les populations, les parents ont l'habitude parce que eux-mêmes, dans l'enfance, oui, ou bien dans l'environnement, voient qu'il y en a beaucoup qui évoluent comme ça. Donc il y a rarement de l'inquiétude.
Mais on peut avoir ça, par contre, chez des populations qui ne sont pas forcément habituées à cette forme pour le nombril et qui peut, je pense par exemple en Europe, se dire aller voir le pédiatre en disant qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, c'est vrai, mais il vaut peut-être mieux prendre un avis chez le pédiatre puisque, comme je le disais, chez les populations mélanodermiques, c'est très fréquent. Dans les populations mongoloïdes, un petit peu moins. Et puis, chez les patients dits caucasiens, chez les personnes dites caucasiennes, donc vulgairement la race blanche, c'est encore moins fréquent. Donc, quand ça survient, ça vaut quand même la peine de prendre un avis.
De consulter. Donc, on a ces hernies congénitales, on l'a bien compris. Et puis, il existe, professeur Zinzadoué, des hernies associées à certaines situations et à certains efforts.
Alors, il y a des hernies acquises. Si on revient un petit peu sur ce que l'on disait, il y a des hernies inguinales qui sont congénitales. C'est-à-dire que lors de l'embryogenèse, le testicule va migrer, il se forme au-dessous des reins, petit à petit il va descendre, puis il va passer au travers de l'anneau inguinal et il va descendre dans les bourses. On connaît ces petits testicules migrateurs chez l'enfant parce que il peut comme ça passer au travers de l'orifice et au fur et à mesure que les enfants avancent en âge, cet orifice se referme. Il peut ne pas se refermer complètement, il peut y avoir une communication qui persiste. Là encore, chez un tout petit enfant, avoir un petit engagement hernière, ça n'a aucun caractère de gravité, mais quand vers 6, 8, 10 ans persiste une hernie, eh bien il pourra être indiqué de corriger pour éviter justement cela.
Et éventuellement, justement, quand il va faire un effort, des situations de la vie courante, hein, comme la toux ou un éternuement, on va voir cette grosseur grandir en taille, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, elles deviennent impulsives, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un effort de pousser, on voit qu'il y a une protrusion, mais lorsqu'elles ne sont pas compliquées, elles peuvent rentrer et sortir librement et ne sont pas douloureuses.
Certaines hernies peuvent être provoquées par une déchirure des muscles. Est-ce qu'à ce moment-là, le patient, professeur Zinzadoué, est-ce que le patient ressent quelque chose? Est-ce qu'il sent dans son organisme, dans son corps, qu'il y a eu justement cet accident musculaire?
Alors c'est une situation qui finalement est peu fréquente. Je dirais que c'est de l'ordre de 10 à 15% des cas. L'immense majorité des hernies sont totalement indolores. Et le patient vient consulter parce qu'il a remarqué une voussure, une boule. Lorsqu'il vient pour une douleur, c'est effectivement qu'il y a eu un effort particulièrement intense. Et à ce moment-là, il y a une petite déchirure musculaire. Le plus souvent, il vaut mieux attendre que la douleur ait disparu et que donc la déchirure et cicatriser pour voir quelle est l'importance de la lésion résiduelle.
Alors en général, quand on appuie sur ces hernies, on va dire qu'elles se résorbent, elles se rétractent par pression. Qu'est-ce qu'on doit faire justement quand on appuie dessus, hein, pour parler trivialement, professeur Zinzindoé, et qu'elles ne bougent plus?
Alors malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose parce que dès qu'on va retirer la main, naturellement, elles vont ressortir. En fait, il s'agit d'une situation anatomique, puisqu'il y a un orifice qui est trop grand. Donc nécessairement, la correction ne peut être que anatomique. Il y a eu pendant longtemps des ceintures hernières qui consistaient à appliquer des sortes de tampons avec un espèce de coussinet pour essayer de les maintenir en place. D'abord, c'est très peu hygiénique parce qu'à cet endroit-là, c'est difficile de le maintenir dans un état sanitaire satisfaisant. Ensuite, on risque d'appuyer sur des viscères qui sortiraient parce que ils sortent malgré tout, ils se trouvent coincés. Donc ça, ce sont pas des bonnes solutions. Et en gros, on peut pas faire grand-chose. On peut toujours recommander aux gens de mettre la main de temps en temps lors d'un effort important, mais voilà, c'est un emplâtre sur une jambe de bois.
Tout à l'heure, vous nous avez dit, professeur Zinzindoé, que dans la plupart des cas, ces hernies étaient indolores. Est-ce que ça veut dire que justement, quand il y a douleur, ce n'est pas normal et qu'il faut à ce moment-là consulter?
C'est clairement un signe d'alerte. C'est clairement un signe d'alerte, et lorsqu'il y a une douleur, si elle est intense d'apparition brutale, que la hernie ne se réintègre pas, voire qu'il y a des signes digestifs, c'est une urgence.
Il y a le terme d'étranglement d'une hernie, qu'est-ce que c'est précisément?
C'est lorsque donc du tube digestif, par exemple de l'intestin grêle, s'est introduit dans la hernie, et puis petit à petit, le tube digestif naturellement, du fait du transit, s'est rempli de liquide, et donc se trouve trop gonflé par rapport à la taille de l'orifice, et à ce moment-là va se trouver strangulé. La strangulation va être responsable d'un défaut de vascularisation qui peut aller jusqu'à la nécrose, et donc non seulement le transit est interrompu, mais en plus le tube digestif est en train de mourir, et donc il faut intervenir au plus vite pour libérer cela.
Alors, extrême urgence, est-ce qu'il y a d'autres cas justement qui nécessitent une chirurgie de toute urgence?
L'étranglement est la principale situation, indiscutablement. La seule chose, c'est que il y a deux situations. La première, c'est l'arrêt du transit. La deuxième, c'est l'intensité de la douleur. Et puis ensuite, des signes généraux, mais qui sont des signes de gravité.
On a cerné l'essentiel, hein. On est allé sur les définitions, sur la description anatomique. Et maintenant, on va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
On disait tout à l'heure, hein, les hommes plus concernés que les femmes, même si des femmes sont aussi concernées par ces hernies. Aujourd'hui, ce matin, uniquement des auditeurs en ligne. Et le premier de cet auditeur qui est au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, eh bien c'est Fulbert. Bonjour Fulbert.
Oui, bonjour Caroline Paré.
Nous sommes à votre écoute, le professeur Zinzindoé vous écoute, allez-y.
Ok, merci. En 2017, on m'a diagnostiqué une hernie hiatale. En fait, je suis allé consulter, c'est suite à des douleurs. J'étais très souvent constipé et le ventre était ballonné. Il y avait des rots également. Donc, j'ai fait une échographie et puis une fibroscopie abdominale. C'est là qu'on m'a diagnostiqué l'hernie hiatale. J'ai deux ou trois questions. La première, est-ce qu'on peut guérir de l'hernie hiatale? Quels sont les traitements appropriés? Sinon, est-ce qu'on peut avoir des calmants, histoire de soulager la douleur? Voilà, c'est entre autres mes questions.
Alors, vous avez consulté, Fulbert. Qu'est-ce qu'on vous a dit pour justement vous apaiser au quotidien?
Bon, on ne m'a pas donné des traitements appropriés, mais c'est des dispositions qu'on m'a dit de prendre, notamment d'éviter de manger après 18 heures. Voilà, d'éviter les repas trop gras et puis de me coucher sous la tête avec deux coussins.
D'agir sur votre digestion, donc.
Voilà, c'est-à-dire si je veux me coucher 45 minutes après avoir mangé, il faut que j'utilise deux coussins. Sous la tête. Voilà.
Donc des conseils très très concrets, très pratiques. Professeur Franck Zinzindoé, question générale de Fulbert. Est-ce qu'il peut guérir de cette hernie hiatale?
Alors comme je le disais tout à l'heure à l'antenne, ce sont des c'est anatomique. Donc, pour modifier l'anatomie, il va falloir intervenir physiquement. En fait, dans la question de Fulbert, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il doit avoir ce qu'on appelle un reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire, il a parlé d'éructation, mais il doit aussi y avoir une remontée des aliments, et c'est la raison pour laquelle on lui propose d'attendre avant de se coucher, de pas manger après 18 heures parce que justement il va se coucher peut-être pas très longtemps après, d'avoir des repas digestes justement parce qu'il va se coucher après et qu'on souhaite que ça ne remonte pas trop. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'une hernie hiatale, c'est une issue de la partie supérieure de l'estomac dans le thorax, et pour des raisons mécaniques sur lesquelles je vais pas m'étendre, lorsqu'il y a de l'estomac dans le thorax, ça remonte extrêmement facilement. Il doit donc avoir vraisemblablement une œsophagite, et puis il peut y avoir des reflux absolument massifs, avec une toux nocturne, avec même des sensations de noyade lorsqu'on reste allongé. Le diagnostic se fait principalement sur l'examen d'imagerie, qui peuvent être simples, pas l'échographie manifestement. La fibroscopie aura peut-être montré une œsophagite, justement, et c'est surtout un examen d'opacification de l'estomac et de l'œsophage qui va permettre de voir quelle est la situation anatomique de l'un par rapport à l'autre, par rapport à la limite entre le thorax et l'abdomen.
C'est quoi, par IRM ?
Non, du tout. Ça s'appelle un transit œsogastro-duodénal, c'est-à-dire qu'on va faire boire un produit de contraste à la personne et on va lui faire des clichés de radiologie tout à fait simples lorsqu'il est en train de boire le produit pour voir exactement comment ça se passe à ce niveau-là.
D'accord. C'est quelque chose d'assez simple, finalement.
Oui, c'est très très accessible. Au Burkina Faso, il n'y a aucun problème, à mon avis, pour avoir ce type d'examen.
Et donc avoir le bon diagnostic pour ensuite envisager, avec un chirurgien, de voir si c'est nécessaire d'aller plus loin.
Tout à fait. Alors, la première étape, bien sûr, c'est le contexte médical, c'est-à-dire que lorsqu'on va donner au patient un traitement antiacide, alors, on lui a donné ce qu'on appelle des conseils hygiéno-diététiques, qui peuvent être utiles, mais qui malheureusement, la plupart du temps, ne sont pas suffisants. La deuxième chose, c'est donner un traitement antiacide, donc soit des inhibiteurs de la pompe à protons, soit des équivalents de pansements gastriques pour tamponner l'acidité gastrique, et donc pour faire en sorte que ce reflux soit le moins agressif, et donc le moins douloureux, le moins inconfortable possible. Encore une fois, quand le reflux est volumineux, c'est moins son agressivité que son volume qui gêne, et là, de toute façon, un traitement chirurgical sera nécessaire.
Et pour ce type de conseil, professeur, aller voir un généraliste ou aller voir directement un gastro-entérologue ?
Alors, je pense qu'un médecin généraliste est tout à fait à même de donner d'excellents conseils et de débuter la prise en charge. Le gastro-entérologue sera probablement plutôt un intervenant pour faire une fibroscopie si on est à la recherche d'une œsophagite. Mais il n'aura pas tellement la possibilité de mettre en place un traitement. Enfin, un traitement anatomique, j'entends. Ce sera assez rapidement une prise en charge chirurgicale.
Voilà, Fulbert, pour ces conseils, donc, de procéder à un autre examen pour avoir vraiment le bon diagnostic et puis envisager la suite des événements. On vous souhaite une excellente journée à Bobo-Dioulasso. On part pour le Bénin, pour Cotonou, avec en ligne avec nous Norou. Bonjour, Norou.
Bonjour, Caroline.
Le professeur vous écoute. Le professeur vous écoute. Allez-y.
Ok. J'ai commencé par avoir des symptômes de fièvre, où je rote beaucoup, l'irritation de la gorge, je crache beaucoup aussi. Et j'ai commencé par sentir des douleurs au niveau de la poitrine. Donc j'ai été voir un généraliste qui m'a orienté directement vers un gastro-entérologue. Donc là, on m'a fait passer une fibroscopie et c'est là où on m'a détecté une hernie hiatale. Maintenant, le médecin m'a dit au fait que c'était une hernie hiatale non compliquée et il m'a détecté également un ulcère. Donc l'ulcère a été traité, mais par rapport à l'hernie hiatale, il m'a dit que ça se traite pas. Vu que ce n'est pas compliqué, si ça devrait se traiter, ce serait une intervention, mais comme ce n'est pas compliqué, donc je ne peux que revoir mon mode de vie. Donc, il m'a prescrit Gaviscon, un antiacide que je prends, et même juste présent que je prends. Il m'a prescrit un Gaviscon. Mais mon souci, c'est que les symptômes persistent.
Donc vous n'êtes pas soulagé, mais est-ce que vous êtes inquiet, Norou, justement, de dire...
Oui, je suis inquiet. Mon souci, c'est de connaître l'évolution et les complications possibles.
Vous inquiétez de la suite des événements. Professeur Zinzin Doué, comme tout à l'heure, hein, on voit aussi ces remontées acides.
Alors, c'est tout à fait vrai. Dans ce cas particulier, donc en l'occurrence, je salue un compatriote, dans ce cas particulier, on voit que le traitement antiacide fait que le liquide digestif qui remonte n'est plus aussi agressif, mais de par son volume, il est gênant. Et à ce titre, ça peut nécessiter une correction anatomique en faisant ce qu'on appelle une valve autour de l'œsophage pour essayer de créer une gêne à la remontée qui parfois peut gêner aussi un petit peu la descente puisque bah, malheureusement c'est par le même endroit que ça passe, mais du coup faire en sorte que ce reflux soit moins important. Dans un premier temps, une approche médicale est tout à fait sensée et ce que lui a proposé son médecin est l'attitude raisonnable. Maintenant, s'il n'est pas suffisamment soulagé, il faut qu'il retourne voir son médecin et qu'ensemble, ils prennent une décision et qu'ils prennent éventuellement un avis chirurgical.
Et Norouk, vous n'hésitiez pas à lui parler justement à votre médecin de vos inquiétudes, parce que ça compte aussi.
Ok.
On vous souhaite une très bonne journée au Bénin. On reste au Bénin, c'est le hasard, par à coup, où l'on retrouve Amdawel. Amdawel, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous sommes à votre écoute, allez-y.
D'accord, bon... Il y a de cela 7 mois, j'ai souffert d'une hernie inguinale. Mm-hmm. Donc j'ai été hospitalisé. Le médecin juste des calmants pour que la douleur passe. Donc je n'ai pas été suivi si longtemps médicalement. Et donc maintenant, je n'ai pas voulu subir une opération. Parce que le médecin m'avait souligné qu'il fallait une intervention chirurgicale pour que les douleurs s'apaisent. Donc, je n'ai pas voulu ceci, et j'ai continué avec les traitements traditionnels. Donc, avec le temps, et au lieu que ceci prenne du volume, et je parle bien sûr de ma gonade qui est infectée, ceci n'a pas plus de volume, ça le volume a commencé par diminuer jusqu'à ce que ça devienne, ça prenne une petite forme, ça devienne un petit truc. Et j'ai tendance à avoir maintenant une seule gonade. Donc, mes questions sont celles-ci. Je voudrais savoir si, et en dehors de la chirurgie, il n'y aurait pas un autre mode de traitement. Et la deuxième question. Et l'hernie inguinale n'aurait-elle pas un rapport avec la maladie de la prostate? Parce que j'ai parfois des complications à évacuer mon urine et je ressens des douleurs en voulant uriner.
Alors je vais donner tout de suite la parole au professeur Zinzin Doué pour justement vous répondre. Amdawel, on comprend bien votre inquiétude. Moi j'ai une question à vous poser. Vous parlez de traitement traditionnel. Il consistait en quoi précisément?
Oui, bon, à prendre des poudres et puis des médicaments à prendre oralement, à pas voir oral quand même.
Est-ce que vous connaissez la composition, j'imagine que non, hein, de cette potion, de ce remède?
Non, c'est des mélanges de plantes et puis de racines.
Mélange traditionnel. Et vous avez ressenti un mieux après l'avoir pris ou pas?
Oui, bon, la douleur a diminué.
Oui, sur la douleur.
Ça persistait quand même, bon, mais je ressens un peu la douleur, pas trop comme avant.
Vous avez de la douleur ou de la gêne? Est-ce que c'est le volume qui vous embête ou vous avez mal?
Non, actuellement, le volume a considérablement diminué. Je n'ai même plus, j'ai tendance à ne pas avoir une deuxième gonade, en fait.
Et j'ai encore une petite question. La question, c'était par rapport à votre prostate. Vous êtes fait examiner pour voir si elle avait changé de volume ou pas?
Non. Je ne me suis pas fait examiner.
Donc maintenant, je donne la parole au spécialiste, le professeur Zinzin Doué. Allez-y.
Oui. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que au niveau inguinal, au niveau scrotal, donc au niveau des bourses, il peut y avoir plusieurs types de pathologies. Ce que vous venez de nous décrire, assez typiquement, c'est l'évolution naturelle d'une torsion du cordon spermatique. C'est-à-dire que lorsque la gonade a tourné sur elle-même, en fait, elle a fait une vrille sur ses vaisseaux qui se sont obstrués. C'est responsable d'une douleur intense. Il y a un gonflement du testicule qui, lorsqu'il est totalement mort, finit par se réduire. Donc, Il s'agit là de quelque chose d'un peu différent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on ne doute pas que beaucoup de plantes aient des principes actifs. La preuve en est que la pharmacopée, même occidentale, en grande partie a utilisé un certain nombre de plantes pour en tirer des principes actifs. Mais il est toujours très difficile, d'un endroit à l'autre, d'une saison à l'autre, d'un type de plante à l'autre, de savoir exactement ce qui se passe. Donc voilà, j'ai pas trop d'avis sur ce que peut être un traitement traditionnel qui parfois pourrait être efficace et puis parfois ça, il s'agira de tout autre chose. Mais s'agissant de ce qui a été décrit, c'est-à-dire une torsion du cordon spermatique, ou s'agissant du thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire la hernie inguinoscrotale, comme nous sommes en présence d'une anomalie anatomique, il va pas être possible avec des plantes de traiter une anomalie anatomique. Ça va pas marcher. Parce qu'il va falloir intervenir directement pour modifier quelque chose. Alors on va un peu sortir du sujet. Lorsqu'un testicule est nécrosé, il y a parfois un risque qu'il y ait une réaction immunitaire du corps contre l'autre testicule. Donc si vous aviez une inflammation ou des difficultés, allez voir un urologue parce que parfois, il peut être proposé de retirer le testicule qui est mort pour éviter une réaction qui attaque le testicule contralatéral. Autrement, je ne connais pas votre âge, il est possible d'avoir une prostatite, il est possible d'avoir une
Amdawal est jeune, je m'excuse beaucoup parce qu'il nous a dit pendant la préparation, donc il a 24 ans. Il est très jeune.
D'accord.
Très jeune.
Alors, à 24 ans, il est quand même tout à fait exceptionnel d'avoir des troubles cervico-prostatiques, donc au niveau du col de la vessie pour éliminer les urines, et ça justifie, à mon avis, une consultation auprès d'un spécialiste pour savoir ce qui se passe.
Amdawal, donc allez vraiment consulter hein, pour que quelqu'un vous donne un diagnostic précis et des solutions. Je pense que c'est vraiment le message à faire passer. On vous souhaite une bonne journée à Parakou. On part pour Niamey. En ligne avec nous, c'est Séni. Bonjour Séni.
Oui, bonjour docteur.
On est à votre écoute, le professeur vous écoute, allez-y.
Oui, bonjour professeur.
Bonjour.
Oui. En fait, j'avais découvert ça, c'était suite à une visite médicale en vue de la rentrée d'information militaire. Donc, le médecin chargé de la visite m'a fait savoir que j'ai une hernie, donc je ne pouvais pas suivre l'information militaire. Donc, suite à ça, il m'a suggéré d'aller voir un médecin spécialiste pour une opération chirurgicale. Donc, moi, j'ai quitté avec une peur inimaginable, puisque pour moi, c'était la mort directement. Et il m'a beaucoup fait peur, lui-même, le médecin. Donc, ma question est de savoir... Allô?
Oui, on est toujours à votre écoute, hein, on est complètement là,
oui,
allez-y.
Oui, oui. Est-ce que les conséquences d'une telle hernie, est-ce que ça pourrait causer un problème d'infertilité? La première question. La deuxième question, est-ce que cela veut dire que je ne pourrais plus faire du sport? Parce que selon lui, selon le médecin, le fait que je fasse du sport... des abdominaux, des pompes, ça pourrait aggraver
la situation. Donc deux questions, hein, Séni, si on vous suit bien. D'abord sur votre fertilité, l'impact de cette hernie inguinale, et puis est-ce qu'il y a une contre-indication à la pratique du sport, en particulier aux efforts de musculation, professeur Zinzindoé?
Alors moi j'ai entendu une troisième question qui m'apparaît absolument fondamentale, c'est la dangerosité de l'intervention.
Oui.
Donc je vais commencer par ça. 20 millions de cures de hernie inguinale et scrotale par le monde, et sans doute beaucoup plus. C'est une intervention d'une très grande bénignité qui permet à des adultes jeunes qui se trouvent finalement d'une certaine façon handicapés de retrouver absolument toutes leurs activités. Donc il est bien évident que ce n'est pas une intervention qui a une nature grave ou dangereuse. Il y a bien sûr des complications qui sont possibles, comme toute intervention chirurgicale, mais il est clair que lorsqu'on reçoit le conseil d'être opéré, il faut le faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir un inconvénient parce que le cordon spermatique passe au travers. Pour l'auditeur précédent, ça pourrait être au décours d'une intervention chirurgicale que le cordon spermatique aurait été blessé lors de l'intervention et que le testicule puisse se nécroser. C'est un événement peu fréquent, mais c'est un événement qui est possible. Et donc, il faut le savoir, il faut que le patient ait été prévenu de cela. C'est de l'ordre de 3%, donc c'est vraiment pas un événement fréquent. La troisième chose, c'est que, bien évidemment, l'intervention chirurgicale chez un sujet jeune qui n'a pas d'autre handicap doit lui permettre de retrouver toute son autonomie. Et c'est pour ça qu'il faut absolument ne pas hésiter à être opéré, parce que tant qu'on n'est pas opéré, faire des efforts va poser un problème, faire des efforts va continuer à faire augmenter le volume de la hernie. Une fois opéré, on peut reprendre toutes ces activités sans aucune ni gêne ni limitation.
Donc c'est ni suivez le conseil du médecin que vous avez vu, aller consulter, voir justement comment procéder à cette opération. Vous souhaite une excellente journée à Niamey. Justement pour se faire opérer, vous disiez des opérations très nombreuses, hein, 20 millions au niveau mondial, 150 000 au niveau de la France. Est-ce que l'anesthésie générale est systématique ?
Alors, absolument pas. Il faut savoir que l'une des techniques historiques, l'intervention dite de Schuldis, du Schuldis Hospital au Canada, est faite depuis les années 40 et 50 sous anesthésie locale stricte. Ce sont les premiers à avoir proposé de le faire en chirurgie ambulatoire, les patients rentrant le matin, sous anesthésie locale étant opérés et ressortant dans la journée. Donc, on peut le faire sous anesthésie locale stricte, on peut le faire sous anesthésie loco-régionale, rachianesthésie ou péridurale, mais c'est plutôt des rachianesthésies, parce que la péridurale, c'est de plus longue durée. Et puis, on peut le faire sous anesthésie générale, standard.
Alors, on va, si vous le voulez bien, professeur Zinzindoué, prendre tout de suite la direction du Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Où l'on vous retrouve, professeur Madiang Dieng. Bonjour, professeur.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef du service de chirurgie générale au CHU Aristide Le Dantec. Alors au sein de votre service, professeur Dieng, est-ce que les hernies inguinales constituent une proportion importante des cas qui conduisent justement à l'opération ?
Effectivement, au niveau de notre service, le service de chirurgie générale, nous avons mené une étude sur 3 ans. Et donc nous nous sommes rendus compte que la fréquence hospitalière était de 195 cas par an, donc soit 15% des interventions chirurgicales sur l'année, et dont les 32% étaient des hernies étranglées.
Donc une opération, on va dire, classique, c'est encore un argument pour rassurer cet auditeur, Séni, à qui on a conseillé de se faire opérer, mais qui a quelques appréhensions.
Oui, comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur Franck Zinzindoué, que je salue au passage. Hein. Franck, bonjour.
Bonjour Madiang, ça fait très plaisir de t'entendre.
Ça va, et vous ? Ça va.
Vous avez travaillé ensemble, on l'entend bien.
Ben oui, voilà. Et donc là, c'est une intervention bénigne, hein, comme il l'a rappelé. Et donc, c'est tout à fait une chose qu'on fait et qui va prendre 30 minutes à 45 minutes. Bon, c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais quand même, c'est une intervention qui peut se faire sous anesthésie locale, comme il l'a rappelé, sous anesthésie loco-régionale, ou bien parfois, si on est un peu coincé sous anesthésie générale, surtout quand il y a une complication, l'étranglement.
Donc, alors, on l'entend bien à travers les témoignages des auditeurs, il y a quand même de la retenue, il y a des obstacles qui retardent à la fois la consultation, mais bien sûr encore plus l'opération. Qu'est-ce que vous retenez, vous, comme obstacle dans justement votre pratique quotidienne, professeur Dieng ?
Alors, ici, chez nous, bon, les difficultés sont de plusieurs ordres, hein, mais bon, principalement, il y a les difficultés socio-économiques, hein, donc l'accessibilité financière. Enfin, il n'y a pas un système de santé qui prend en charge les gens. Bon, c'est vrai que l'État est en train de mettre en place ici une politique de CMU de couverture maladie universelle.
Mais ce n'est pas encore fait.
Voilà, ce n'est pas encore fait. C'est les malades qui se prennent en charge. Et donc, parfois, c'est très difficile de payer l'intervention chirurgicale. Surtout si on doit utiliser, Franck va en parler peut-être tout à l'heure, les prothèses que le malade va payer lui-même. Et il y a aussi les difficultés d'accès aux hôpitaux, surtout les hôpitaux de niveau 1, hein, où il y a des chirurgiens qui peuvent faire cette intervention, donc l'accessibilité géographique peut poser problème. Mais également, il y a l'ignorance des populations, hein, donc l'ignorance de la maladie, on s'en est rendu compte, hein, sur certains témoignages, et surtout la peur de l'intervention chirurgicale. Dans l'imaginaire, donc tout à l'heure, un auditeur a posé la question, est-ce qu'il n'y a pas de risque de se faire opérer? Et donc, on les rassure tout à fait que l'intervention est tout à fait bénigne et qu'elle peut se faire en toute sécurité dans nos conditions.
Et pour le cas des hernies inguinales, professeur, il y a bien évidemment aussi la dimension de la pudeur. Est-ce qu'on peut même parler de tabou physique?
Ben exactement, parce que pour la hernie inguinale, comme ça se situe au niveau de la région de l'aine, et donc ça intéresse surtout chez les hommes la région où où siègent les organes génitaux externes, et même parfois chez la femme, hein, parce qu'on peut avoir une hernie inguino-labiale, qui est le pendant de la hernie inguino-scrotale chez l'homme. Et donc il y a un peu de tabou, hein, donc c'est un peu perçu comme une maladie honteuse de parler des organes génitaux dans notre culture. Donc, ceci aussi pour retarder la consultation des patients.
Tout à l'heure.
Je voudrais bien revenir sur quelque chose que disait Madiang et qui est vraiment très très important. Dans la casuistique de son service, la proportion de patients opérés en urgence est énorme. Et je pense que ça serait bien que Madiang puisse commenter la différence de risque entre la prise en charge programmée d'une hernie inguinale qui pose pas de problème et la prise en charge en urgence avec une mortalité qui même peut survenir. Qu'est-ce que tu en penses, Madiang?
Merci Franck. Effectivement, en fait, c'est même le message que moi je voulais faire passer, hein, parce que tu l'as dit. Effectivement, dans les cas que nous rapportons, un tiers des hernies sont opérées en urgence du fait de la complication qui est l'étranglement. Et comme on le sait, et tu l'as bien expliqué au départ dans la physiopathologie, quand il y a l'étranglement, il y a le risque de nécrose, de perforation et d'infection abdominale. Et là, le pronostic vital peut être engagé. Et donc, ce que nous disons, nous exhortons les patients à consulter très tôt. Et comme tu l'as si bien dit, c'est une pathologie anatomique qui nécessite un traitement anatomique. Donc le traitement est exclusivement chirurgical. Il n'y a pas de traitement traditionnel, il n'y a pas de bandage, il n'y a rien d'autre à faire. Il faut aller opérer, fermer cet orifice où les intestins sortent. Et pour cela, on va éviter la complication avant que le pronostic vital ne soit engagé. Donc si le patient est opéré tôt, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Il rentre chez lui dès le lendemain, même ça peut faire en ambulatoire comme il l'a dit. Mais si c'est en urgence, le risque c'est que si c'est pas opéré dans les 6 heures, il y a une nécrose et il y a une perforation, là le pronostic vital peut être engagé.
Donc c'est encore un message qu'on adresse à nos auditeurs, hein, Amdawel et Seni qui nous appelaient tout à l'heure, qui s'interrogeaient, qui s'inquiétaient. Le risque est bien plus grand quand on attend et quand on laisse les choses s'installer et empirer exactement. Que quand on écoute le médecin qui nous dit « allez vous faire opérer ».
Exactement.
On vous remercie beaucoup, hein, professeur Madiang Dieng, d'avoir été en ligne avec nous de Dakar, où vous êtes également enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop.
RFI à Dakar, 92 FM.
Nous poursuivons notre échange avec vous, professeur Franck Zinzin-Doué. J'ai sous les yeux un message d'un auditeur, Serge de Lubumbashi, qui nous dit lui aussi qu'il souffre d'une hernie inguinale depuis l'enfance. En fait, elle n'a pas été diagnostiquée par un médecin, mais il est certain qu'il s'agit bien de cette hernie. Et elle a grossi et est apparue de l'autre côté, donc elle est bilatérale. Il n'a pas de douleur, pas de complications. Et il pose cette question simple. Est-ce qu'il doit consulter? Est-ce qu'il doit être opéré? Et comme il est très sportif, il fait de la musculation. Est-ce qu'il doit arrêter le sport? C'est un petit peu une question qui résume tout ce qu'on a dit depuis le début sur l'importance du diagnostic, l'importance de suivre ce que le médecin spécialiste nous dit et puis changer peut-être certaines habitudes en attendant l'opération.
Oui, je trouve que c'est un cas qui est tout à fait emblématique de ce qui peut se passer lorsque on n'a pas de prise en charge rapide. C'est-à-dire que on a une hernie inguinale d'un côté, elle va grossir, et en plus, comme il y a des conditions anatomiques qui ont favorisé une hernie d'un côté, il y a une hernie de l'autre côté qui apparaît. Donc, et la disgrâce et le handicap deviennent très importants. Il est clair que si cet auditeur continue à faire la musculation, les choses vont aller en augmentant. Et au bout d'un moment, la réparation devient extrêmement difficile et parfois beaucoup trop fragile. On peut être amené à mettre une prothèse en place avec un surcoût très important. Et donc cet auditeur a tout intérêt à aller consulter assez rapidement. D'abord pour faire confirmer le diagnostic, parce que encore une fois, il peut y avoir des pathologies testiculaires qui peuvent donner des tableaux du même type. Je pense par exemple à une hydrocèle, où à ce moment-là c'est une poche d'eau autour du testicule qui fait gonfler la bourse de ce côté-là, mais ce n'est pas impulsif, ça ne se réduit jamais, c'est un peu différent, mais ça peut donner la même apparence. Donc il faut qu'il aille consulter, il faut qu'il arrête de faire des efforts intenses, parce que tout ce qui va se passer, c'est que ça va augmenter en taille. Et à mon sens, il faut qu'il ait une prise en charge chirurgicale.
Donc allez consulter hein, Serge, qui est à Lubumbashi, un RDC, qui nous adressait ce message, qu'on n'a pas pu prendre en ligne, mais on a bien sûr relayé sa question. On a parlé donc de l'opération. Qu'est-ce qui se passe après cette intervention chirurgicale, professeur Franck Zinzindoé? Une convalescence, un arrêt pour éviter par exemple qu'il y ait récidive ou complication?
Alors, on n'a pas beaucoup parlé des techniques chirurgicales qui sont diversement proposées à la surface du globe. On peut considérer qu'il y a des interventions par voie directe et puis il y a des interventions sous celluloscopie. Globalement, les résultats sont à peu près équivalents. La différence, c'est que sous celluloscopie, il est indispensable de mettre en place une prothèse, tandis que lorsqu'on fait une intervention par voie directe, on peut faire ce qu'on appelle une raphie, c'est-à-dire qu'on répare les tissus du patient uniquement, ou bien on peut en plus mettre une prothèse. Ce qu'il faut considérer, c'est que l'impotence fonctionnelle est de l'ordre de 5 à 7 jours. Ensuite, en fonction de l'activité professionnelle des gens, on différera éventuellement le retour au travail quand c'est de la manutention.
Merci infiniment, bien sûr, en fonction de l'activité professionnelle concernée. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation de Priorité Santé. Professeur Franck Zinzindoé, je rappelle que vous êtes professeur de chirurgie viscérale et digestive à l'hôpital privé Drôme-Ardèche. On remercie bien sûr une nouvelle fois nos confrères de France Bleu Drôme-Ardèche de vous avoir accueillis aujourd'hui dans leur studio. L'activité physique dans Priorité Santé, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Je vais faire des exercices de diction avec vous. Alors, nos auditeurs ont plutôt l'habitude de dire qu'ils sont du matin. Certains autres disent qu'ils sont plutôt du soir. C'est important pour l'éveil, pour l'activité professionnelle, pour la vie de famille. Mais pour le sport, docteur Sen, on va parler chronobiologie, le bon moment de faire du sport. C'est quoi la chronobiologie?
La chronobiologie, c'est l'étude des rythmes biologiques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe comme ça des grands rythmes qui régulent nos fonctions biologiques et comportementales, qui varient selon la journée, le mois, l'année, et que cela affecte notre performance mentale et physique en fonction des cycles. Alors le cycle principal qui a le plus d'incidence et qui est le plus étudié, c'est ce qu'on appelle le cycle de la journée de 24 heures, c'est le rythme circadien. Et on se rend compte que dans ces cas-là, la température corporelle, par exemple la fréquence cardiaque, oscille de manière cyclique là autour de 24 heures avec la période la plus basse qui est à 4 heures du matin et un pic qui est en fin d'après-midi. Et lorsqu'il existe une dérégulation de ces cycles, eh bien, on va observer également une perturbation physiologique qui va être associée. C'est donc une véritable horloge interne qui nous régule, qui se situe au niveau de l'hypothalamus et qui régule finalement l'organisme comme ça de manière tout à fait cyclique. Des facteurs influent. Premièrement, la lumière, l'exposition à la lumière du jour, c'est quelque chose qui va être déterminant, mais aussi l'activité physique et puis la température extérieure ont des rôles qui sont plutôt importants. Et donc, tenir compte de ces cycles va être intéressant pour pouvoir justement adapter son activité sportive.
Alors justement, le bon moment, on vient justement au cœur de notre sujet, c'est quoi ce bon moment de la journée pour faire du sport, docteur Sen?
Eh bien, ça dépend en fait, bien sûr de l'individu, parce qu'il y a des variations individuelles, mais aussi du type d'activité qui est pratiquée. Par exemple, le matin, il y a un pic de cortisol. Et on sait également que le taux de glycémie n'est pas le plus élevé le matin. Et donc, le but, c'est d'essayer d'éviter des activités qui stimuleraient trop le cœur ou qui nécessiteraient trop d'avoir recours, finalement, au sucre. Et donc, c'est bien le matin d'avoir des exercices de faible intensité et plutôt où on va travailler sur la motricité, sur la coordination. Donc, par exemple, un sport comme le tai chi, le yoga, est parfait le matin, à l'aube. Et d'ailleurs, dans les pays où on le pratique, on se rend compte que c'est souvent le matin dans les parcs publics que cela est pratiqué. Au fil de la journée, il va y avoir une remontée de la température, de la glycémie, avoir un maximum en fin d'après-midi. Et donc là, c'est là où on peut utiliser la puissance musculaire maximum. Et donc là, il ne faut pas hésiter à avoir ces exercices plus intenses comme le squash ou les exercices d'aérobie, c'est-à-dire d'aérobie physiques, bien évidemment, qui peuvent être faits à entre 17 et 19 heures, par exemple.
Alors, à l'inverse, on dit que c'est pas très bon, en général, hein, de faire du sport après le repas ou le soir. Est-ce que c'est vrai?
Ben oui, parce que juste après le déjeuner, allez, on va dire entre 13 et 15 heures, eh bien là, on aura plutôt, bien évidemment, il y a la digestion qui intervient, et là, il y a plutôt un intérêt à avoir des activités douces. Donc là aussi, le yoga, le stretching sont des choses qui sont tout à fait parfaites. Là où il y a les plus mauvaises performances, c'est en pleine nuit, hein. C'est entre 4 et 5 heures du matin.
C'est pas très étonnant, hein. La nuit, c'est un peu fait pour dormir.
Et donc là, c'est pas terrible d'essayer de faire cela. Et, il y a des études qui montrent maintenant, avant, on disait, oui, il faut surtout pas faire du sport le soir parce que ça empêche de dormir. Ben, en fait, il y a des études qui montrent que c'est vrai que ça augmente un peu le délai d'endormissement, mais par contre, que ça augmente le temps total, la durée du sommeil, et que ça diminue les éveils nocturnes. Donc, le fait de faire du sport le soir, finalement, permet très souvent d'améliorer finalement son sommeil, et donc c'est parfait pour les adeptes du jogging ou de salle de fitness à 20h après le travail.
Il y a aussi la question qui se pose pour ceux qui ont des horaires décalés ou ceux qui voyagent et qui doivent faire face au décalage horaire.
Ah oui, lorsqu'on sort de voyage et on a des grands décalages horaires, eh bien bah justement on perturbe cette horloge interne. Le rythme est totalement modifié, et donc là, l'idée, ça va être d'essayer de se resynchroniser, d'essayer de reprendre un rythme de cette horloge interne qui se trouve au niveau de l'hypothalamus. Et là, il y a plusieurs actions qui peuvent faciliter cette resynchronisation. C'est d'abord, premièrement, faut se lever et se coucher aux heures de l'endroit où on se trouve. Ça, c'est la première chose à faire, et dès le premier jour, hein, dès le départ. Il faut pas hésiter à prendre des douches de lumière, c'est-à-dire vraiment s'exposer à la lumière du jour le matin, véritablement pour essayer de favoriser cette resynchronisation, notamment lorsqu'on a ce décalage est-ouest. Il faut pas hésiter aussi à ce moment-là d'avoir une activité un petit peu tonique le matin. C'est quelque chose qui va améliorer les choses, va échauffer le corps, augmenter la température corporelle. Et puis, en cas de fatigue, d'une manière générale, même dans la journée, l'exposition à la lumière sera toujours quelque chose qui sera particulièrement intéressant. Évidemment, il faudra éviter d'utiliser trop de pour s'endormir, trop de thé, d'excitants, de café. Il faudra éviter d'avoir des chambres surchauffées, et puis éviter de faire du sport le soir, parce que ça, en tout cas, on va dire qu'on se resynchronise, c'est pas le moment idéal pour pouvoir favoriser cet endormissement rapide. Alors voilà, bon, tout cela, ce sont des conseils pour nos auditeurs. En tout cas, il faut retenir que le matin, l'après-midi ou le soir, après le travail, le sport, c'est comme se brosser les dents, c'est une bonne hygiène et bénéfique pour la santé.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, que l'on retrouve toutes les semaines dans Priorité Santé. À très bientôt. Priorité Santé qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, la fabrique, la réalise. Juliette Brault, Baptiste Madinier, Didier Bleu. Et aujourd'hui, avec nous, Laurence Naud. Demain, nous allons parler du cœur, santé cardiaque, troubles cardiovasculaires. Vos messages, vos questions, bien sûr, on les attend. Appelez-nous sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 1 84 22 75 75. À demain, et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunway Assurance, qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunway Assurance, notre métier, l'assurance.